Les parts actualités. Et ce sont les dernières en ce 22 juin 2017. Et oui, ça passe vite, hein, une année, une saison. Et c'est Clotilde Seille qui vous les présente une fois de plus avec aujourd'hui en titre « Mieux outiller les aînés qui ne peuvent plus conduire ». Le soutien à domicile pour les personnes handicapées a diminué par rapport au soutien à domicile pour les personnes âgées. Également à Laval, une septième ligne devient accessible aux personnes en fauteuil roulant, c'est la ligne numéro 43. Et j'évoquerai aussi pour vous la fermeture d'un CHSLD, la communauté de Waterloo dit non. La ville d'Ottawa réduit les frais pour la construction de rampes d'accès temporaires. Il en sera également question à cette émission. Et puis deux entretiens. D'abord à tout seigneur, tout honneur, je vais m'entretenir avec Christiane Campagna, qui est responsable des communications de Canal M, qui sera avec nous en studio. Et qui, je l'espère, va fortement vous intéresser, vous qui peut-être avez du mal, peut-être, à nous suivre sur le site web de Canal M, qui pourtant maintenant est très, très, très clair et très, très, très complet. Et Christiane va tout nous dire à ce sujet. Et je vais également m'entretenir avec Mathieu Denéchaud, agent de développement et communication au regroupant des organismes de promotion des personnes handicapées de Laval, autrement dit le ROPPHL. Alors, mieux outiller les aînés qui ne peuvent plus conduire, c'est d'après un texte d'Isabelle Pion dans la presse.ca. La professeure et chercheuse Mélanie Levasseur souhaite mieux accompagner les personnes aînées qui ne peuvent plus conduire. Arrêter de conduire constitue une étape importante et souvent difficile pour les personnes âgées. Elles sont alors deux fois plus à risque de présenter des symptômes dépressifs que les personnes âgées qui conduisent encore, sans compter le risque accru d'institutionnalisation. Afin de les soutenir dans ce passage de leur vie, une équipe du Centre de recherche sur le vieillissement, le CDRV de Sherbrooke, tiendra des rencontres qui visent à faire connaître les ressources disponibles dans la communauté. La chercheuse Mélanie Levasseur et son équipe souhaitent implanter à Sherbrooke ce projet qui a eu lieu en Australie et qui a montré ses preuves. Dans les 6 derniers mois, environ 200 personnes ont cessé de conduire leur véhicule à Sherbrooke. La proportion oscille autour de 400 personnes annuellement. Il peut s'agir de personnes qui ont cessé de conduire de leur propre chef ou qui ont reçu un avis de la Société d'assurance automobile du Québec. C'est un défi supplémentaire à la participation sociale des aînés, note Mme Levasseur, en rappelant que cesser de conduire peut augmenter l'isolement. Les aînés doivent passer un examen médical et un examen visuel 6 mois avant leur 75e et leur 80e anniversaire. À partir de 80 ans, ces examens ont lieu tous les 2 ans. C'est en recensant des écrits scientifiques que l'équipe a repéré cette intervention qualifiée de très innovante. Appelée « Vivre sans ma voiture », elle a été développée par des chercheurs de l'Université de Queensland en Australie. L'équipe sherbrookoise a pu l'adapter grâce à une subvention du ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec, notamment en engageant un traducteur professionnel. Les responsables du projet recherchent une douzaine d'aînés qui sont disponibles à participer à 6 rencontres de 3 à 4 heures pendant la période estivale. Des étudiantes en ergothérapie et une monitrice de conduite animeront les groupes qui incluent des présentations, des discussions et des exercices pratiques. Alors les gens intéressés peuvent contacter le Centre de recherche sur le vieillissement au numéro de téléphone suivant dans le 819, le 821. 8000, je répète, dans le 819-821-8000, le poste 70178, 70178. Et puis, Isabelle Porter à Québec écrit pour ledevoir.com que les personnes handicapées de moins de 65 ans, reçoivent moins d'heures d'aide à domicile que les personnes âgées, selon un rapport de l'Office des personnes handicapées du Québec, l'OPHQ. Chez les 65 ans et plus, le nombre d'heures dispensées par les centres de santé et de services sociaux, les CSSS, a augmenté de 52% en 2009 et 2014, alors qu'il a baissé de 0,6% chez les personnes souffrant de déficience physique et de 0,8% chez les personnes vivant avec un déficit intellectuel ou un trouble du spectre de l'autisme. Mercredi, la ministre Charlebois n'était pas disponible pour réagir au rapport, mais son attachée de presse, Bianca Boutin, a signalé qu'elle l'avait reçu avec beaucoup d'intérêt. Pour sa part aussi, le rapport révèle des écarts importants entre les régions. Par exemple, en Estrie, le nombre d'heures d'aide à domicile a cru de 74 % en 5 ans, alors qu'il baissait de 7,4 % en Abitibi au cours de la même période. Le document souligne d'ailleurs que l'Abitibi est la seule région à avoir connu des baisses de services, à chacune des années, alors que d'autres régions, comme Québec et la Gaspésie, ont connu des hausses d'heures de service chaque année. Et je reçois Christiane Compagna. On va faire semblant qu'on ne se connaît pas et on va se vouvoyer comme des grandes. Bonjour Christiane.
Bonjour Clotilde.
Alors Christiane, je suis contente de vous accueillir ce matin parce que, bon, d'abord, vous êtes la responsable des communications de Canal M. Et en tant que telle, s'il y en a une qui connaît bien le site web de Canal M, qui a été revampé hein, maintenant depuis l'automne, octobre dernier, on s'est dit que, vu que c'était la dernière, qu'il y a peut-être des petites finesses que les gens ne connaissent pas encore et qu'ils pourraient apprendre grâce à vous. Parce que le Canal M, ça s'écoute de façon... j'allais dire traditionnel à la radio, mais quoi que...
Pas tout à fait
à la radio, à la télévision, c'est ça. Mais on peut aussi nous écouter et nous réécouter sur le net.
Voilà, il y a différentes façons d'écouter Canal M, soit en direct, soit en différé, soit les émissions entières, soit en pièces détachées.
En plus.
Alors vraiment, on fait du sur-mesure à Canal M. Donc évidemment, on peut nous écouter en direct à partir de la page d'accueil de notre site ou de celui de Vusez-Voix. Tout de suite, quand vous arrivez, vous avez le symbole « Play ». Universel, vous pouvez nous écouter directement. Vous avez le nom de l'émission en cours qui apparaît.
Le symbole play, on va peut-être le quand
le
même...
Le décrire, c'est un petit rond avec un triangle.
C'est ça, hein, exactement.
Ensuite, en différé, vous pouvez réécouter ou écouter les émissions à partir de la page de chacune de ces émissions. Donc, quand vous arrivez sur la page d'accueil, vous allez sur Radio, Émission. Vous choisissez l'émission de votre choix et vous avez tous les épisodes disponibles. Vous pouvez aussi, pour ceux qui le préfèrent, s'abonner au balado-diffusion ou au podcast, notamment via iTunes. Quand vous êtes abonné, ça arrive automatiquement dans votre bibliothèque iTunes. D'ici l'automne, on devrait normalement pouvoir activer la chose aussi sur Google Play Music. Et pour les plus geeks d'entre vous, là, je m'adresse seulement à une minorité en ce moment, il y a moyen de rentrer le code XML de chaque émission dans votre lecteur. Je sais qu'il y a des gens qui le font, notamment qui peuvent le faire avec certaines versions de Victor, je pense. Sur la page de l'émission, vous cliquez à l'endroit où ça dit « s'abonner » et vous allez obtenir l'adresse, l'URL de cette page-là. Pour plusieurs de nos émissions, il est aussi possible d'écouter les entrevues séparément. Donc, si vous voulez, c'est un organisme et que vous voulez partager l'entrevue que vous avez faite à Canal M, c'est possible d'utiliser cette fonction-là. Sur la page de l'épisode, en descendant et en allant à la section « Les segments de l'émission », vous allez trouver les entrevues, par exemple, et par actualité. Vous allez trouver cet après-midi, si vous voulez écouter seulement mon entrevue ou celle de Mathieu Deschenaux, vous allez pouvoir le faire. Aussi, vous pouvez choisir d'écouter toutes les entrevues en lien avec une thématique. Et ça, c'était vraiment une nouveauté de ce site web-là. Les thématiques, je vais revenir pour les décrire, mais elles sont inclusion, handicap visuel, handicap moteur, handicap auditif, déficience intellectuelle, aînés, famille, troubles neurologiques, santé, enjeux sociaux, puis culture et loisirs. Alors, il y a différentes il y a différentes façons d'y accéder. Soit à partir de la page d'accueil, en allant à l'onglet Radio, puis en choisissant Thématique. Vous allez arriver par défaut sur la thématique Santé, mais vous allez voir toutes les autres thématiques disponibles. Et aussi, quand vous écoutez un segment à partir d'un épisode qui parle, par exemple, de déficience visuelle, le lecteur va vous offrir la fonction d'écouter d'autres segments qui parlent de déficience visuelle. Ça permet pour certaines personnes qui recherchent de l'information sur un sujet en particulier de vraiment se concentrer sur cette thématique-là qui soit les concerne, soit piquer leur curiosité.
Bon, autrement dit, avec ce pas tout nouveau site, mais quasiment dont nous disposons à Canal M, il y a plus personne qui peut nous dire « j'arrive pas à vous écouter ». Hein?
Ah, puis Christiane. Si jamais c'est le cas, écrivez-moi. Je vais vous renseigner. Je voudrais quand même vous décrire un petit peu peut-être ces thématiques-là pour voir en quoi ça consiste. Alors, la thématique inclusion, c'est probablement une des plus fréquentes. C'est le fil audio qui parle de tous les sujets qui concernent l'accessibilité, qu'elle soit architecturale, au milieu de l'emploi, l'accessibilité à l'éducation, oui. Accessibilité. Finalement, tout ce qui favorise l'inclusion va se retrouver dans cette thématique-là. Évidemment, ça se peut que certaines entrevues aient plus qu'une thématique. J'en mets jamais plus que trois, mais ça peut créer certaines petites répétitions. Handicap visuel, donc tous les sujets qui concernent les personnes non-voyantes et malvoyantes. Handicap moteur, ça inclut tout ce qui est déficience motrice, ça inclut le nanisme et certaines maladies chroniques ou rares qui affectent la motricité. Handicap auditif et bien entendu les personnes sourdes et malentendantes. La thématique déficience intellectuelle, c'est tout ce qui concerne les conditions permanentes causant un retard de développement intellectuel, dont par exemple la trisomie 21. Les aînés, tout ce qui concerne le vieillissement cognitif et physique. Marianne Paquette, par exemple, assez bon pour la santé, aborde souvent ces sujets-là. Les enjeux d'inclusion sociale et les soins en résidence. On vous donne souvent des nouvelles des CHSLD, par exemple, ou par actualité. Ça entre là-dedans. Tout ce qui concerne l'Alzheimer aussi et la démence s'y retrouvera. Famille, tout ce qui concerne les jeunes familles, le développement de l'enfant, les relations familiales. Par défaut, à peu près tout ce qui est dans portrait de famille aussi s'y retrouve. Les troubles neurologiques, ça vaut la peine de l'expliquer, celui-là. C'est une grande catégorie qui englobe les troubles d'apprentissage ou du langage. Ça comprend l'autisme, le TDAH, par exemple, les séquelles de traumatisme crânien ou le syndrome d'alcool fœtal, des troubles de comportement. Toutes ces problématiques-là, ces handicaps souvent invisibles sont inclus dans cette thématique. Tout ce qui concerne la santé plus globale, la santé physique, la santé mentale se retrouve dans la thématique santé. Les enjeux sociaux, c'est quand on élargit nos thématiques d'inclusion à l'itinérance, à l'éducation, à la violence, la délinquance, et ces thèmes-là. Et finalement, culture et loisirs, le sport, parce qu'il y a aussi du joyeux dans la vie, hein, il faut se détendre.
Mais oui, Christiane.
Alors, le sport, les arts, les médias, tout ce qui est dans l'émission Sortir, par exemple, de Maxime Despommerleaux, se retrouve dans cette thématique.
Et là, vous me tendez une perche, si vous me le permettez, parce qu'il nous reste une petite minute ou deux, parce que quand vous dites aussi que dans la vie, il faut s'amuser, on ne fait pas que ça sur Canal M, c'est le moins qu'on puisse dire, mais on aime bien aussi aborder parfois des sujets légers, et je voudrais qu'ensemble, on évoque un petit peu la nouvelle émission que je vais animer.
Que vous animerez.
Pas toute seule, du lundi au jeudi. Le vendredi, vous retrouverez mon camarade François Broder au micro. Mais c'est une émission qui va s'appeler « Aime l'été ».
Oui.
On l'aime, hein?
On l'aime.
On adore ce titre-là. Et puis, qui va aborder des thématiques à la fois sérieuses parce qu'il y aura toujours des enjeux importants dans le domaine, mais aussi des thématiques un petit peu plus légères. On va beaucoup parler de vacances, on va beaucoup parler d'inventions sympathiques, on va beaucoup parler... c'est bien ça, c'est tout ce que va comporter cette émission-là.
Tout à fait. Et un peu dans le même ordre d'idées, la dernière demi-heure des voies de service animée par Hélène Denis sera consacrée aux nouvelles sportives et culturelles. Ça s'appellera les voies de service extra. Ça fera suivre aux voies de service édition magazine avec ses collaborateurs et évidemment votre édition quotidienne pour l'actualité.
Tout ça pour vous dire que nous allons vous accompagner au quotidien, comme on le fait depuis des années et des années. Et bien sûr, il y aura aussi quelques reprises, comme on le fait souvent en période estivale. Mais on choisit la crème de la crème.
On a choisi le meilleur de vos magazines qui sont habituellement à midi en saison régulière. Ils seront à 13h tous les jours. Et puis, n'oubliez pas de nous suivre sur nos médias sociaux si vous les utilisez. Le Facebook de Canal M et de Visez-Voix.
Oui.
Et Visez-Voix et Canal M ont aussi chacun Twitter.
Alors, aimez-nous et partagez. Merci beaucoup. Merci, au revoir. La STL passe en mode estival. Le 24 juin marque officiellement le début de l'été à la STL. Une 7e ligne devient accessible aux personnes en fauteuil roulant, soit la 43, avec des autobus munis d'une rampe à bascule à l'avant. Ce trajet dessert notamment l'hôpital de la Cité de la Santé, partant de la station de métro Cartier et traversant l'île du sud au nord jusqu'à Auteuil. Ce circuit fait partie des véhicules munis d'appareils permettant de payer par carte de crédit et qui circulent sur les lignes 20, 39, 48, 60, 63 et 73. Des changements de trajet sur les lignes 101, 106 et 107 dédiées aux résidences pour personnes aînées seront à surveiller en ce début officiel de la chaude saison. L'été ramène également la gratuité pour les enfants de 11 ans ou moins, du 1er juillet jusqu'à la fête du travail. Le combo spécial au coût de 64 $ pour les étudiants de 17 ans et ou moins de 17 ans en juillet et août. Le tarif SMOG à 1 $ et la gratuité du 24 juin au 25 août sur la ligne 360 circulant dans le centre-ville lavallois. C'est Éric Patnaud qui écrit dans Granby Express, qui écrit et qui nous parle de la fermeture d'un CHSLD et la communauté de Waterloo qui dit non. La semaine dernière, le CIUS de l'Estrie CHUS a dévoilé les grandes lignes de la réorganisation des places en CHSLD en Haute-Yamaska en vue de la livraison du nouvel établissement de Granby prévu pour 2019. Si l'annonce a ravi le maire de Granby, Pascal Bonin, c'est tout le contraire pour son homologue Pascal Russell. Le maire de Waterloo ne digère toujours pas la décision des autorités de la santé qui lui a été annoncée par Carole Filion, directeur général adjoint aux programmes sociaux et de réadaptation, partenariat et au partenariat au CIUS de l'Estrie CHUS. On m'a dit que la première préoccupation, c'est qu'il y avait des travaux de rénovation à faire. J'ai dit à M. Filion que tout se rénove et qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas d'espace, il y en a amplement pour agrandir. Si on désire garder ces gens-là dans leur milieu de vie, eh bien qu'on investisse l'argent à la bonne place, affirme l'élu. Loin de baisser les bras, le maire Russell part en croisade pour sauver le CHSLD établi dans sa ville depuis 1965. Pétition, résolution des conseils municipaux, soutien syndical, lettre d'appui du personnel et des familles, démarche auprès du bureau du député Pierre Paradis et des instances du CIUS de l'Estrie CHUS. Pour le maire Pascal Russell, le maintien d'un CHSLD dans sa ville va au-delà de la question du maintien des résidents dans leur milieu de vie. C'est l'économie d'une localité qui pourrait en subir les contre-coups. Et puis, il faut garder nos services et nos aînés. Je demande le support de toutes les municipalités. Mon but, c'est de conserver cet acquis. Et maintenant, je vais m'adresser à Mathieu Dénéchaud, j'espère que je prononce bien votre nom, agent de développement et de communication au regroupement des organismes de promotion des personnes handicapées de Laval. L'acronyme, c'est ROPPHL. Bonjour, Monsieur Dénéchaud.
Bonjour.
Alors, écoutez, je suis ravie de vous parler. Le sujet du jour, c'est les capsules de sensibilisation. S'adapter, ce n'est pas réservé qu'aux personnes handicapé. Beau titre d'ailleurs, hein? S'adapter. Est-ce que ça vient de vous, ça, monsieur?
Non, ça vient pas de nous. Enfin, ça vient de, oui, du regroupement des organismes.
D'accord.
On s'est posé, on a réfléchi, puis c'est ça qui est ressorti.
Eh ben, c'est super. Très bonne réflexion. Alors, il y a eu un gala, hein, et un gala qui s'appelle Gala Reconnaissance Laval, qui se déroulait à la Maison des Arts de Laval, c'était le 5 juin dernier. À l'occasion de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Et donc, c'est là hein, que votre organisme a dévoilé ces deux nouveaux clips vidéo pour sensibiliser le grand public à ces situations sources de handicap. Honnêtement, je suis allée les voir, évidemment, avant de vous parler, et je les ai trouvées vraiment bien faites et surtout efficaces, quoi. Cette campagne-là, on va s'en reparler d'ailleurs, on va les décrire un petit peu, mais quand a débuté cette campagne de sensibilisation? Monsieur
cette campagne-là, elle est partie, on l'a débutée l'année dernière, donc okay. En 2015. C'est parti d'un projet, ça a été fait un peu rapidement parce que vous le savez, les conférences régionales des élus ont été abolies. Puis à l'époque, nous, on avait un projet de sensibilisation en démocratisation culturelle. Puis finalement, ce projet devait se terminer plus vite que prévu parce qu'il fallait faire une réédition de compte. Donc on s'est retrouvé avec un budget, puis on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, on peut pas, c'est un peu idiot de ne pas l'utiliser. Puis avec le comité de travail, on s'est dit, mais pourquoi pas, on irait avec des capsules. On a un groupe de théâtre qui existe, on a des comédiens avec nous, fait qu'autant construire ça. Donc c'est parti de ça. Ça s'est monté en 3 mois, ça a été très très rapide, appel d'offres, etc. On a rencontré une belle compagnie de production justement qui était très ouverte à ça et puis qui avait envie de challenger avec nous sur ce projet-là. Qui nous a beaucoup outillés aussi, et voilà, donc ça a permis de faire deux beaux outils l'année dernière, et puis cette année, on a eu la chance d'être refinancé de nouveau par l'OPHQ pour en refaire deux nouvelles, donc ça, on est...
Oui, pardon, excusez-moi, je vous ai coupé un petit peu trop tôt, monsieur Dénéchaud, et je m'en excuse, mais j'avais tellement hâte d'un petit peu décrire ce qui se passait. Alors, dans la première capsule, on est dans un cours de yoga, où le comédien, un comédien, alors lui, il va de gestes de yogi très, très poussés, et tout d'un coup, il s'aperçoit qu'autour de lui, il est entouré de gens qui ne sont pas capables de faire les mêmes du tout, parce que ce sont des gens qui vivent avec un handicap. Et alors là, tout d'un coup, il réalise, mais il ne sait pas quoi faire avec ça, finalement. C'est bien ça, hein?
Exactement.
Bon.
En fait, l'idée en fait, vraiment, qui est partie au début, c'est de se dire, ben, si on était dans une... Puis dans chacune des capsules, on le retrouve, c'est-à-dire de se dire que si c'était les personnes qui étaient sans limitation, qui se retrouvaient dans un monde de personnes avec des limitations, le monde serait complètement différent.
Ben oui, c'est ça.
Et ça part, c'est un petit clin d'œil, bien évidemment, au processus de production en handicap, c'est parti de là. Puis, dans le fond, dans chacune des capsules, c'est toujours ce comédien, toujours lui, c'est un comédien professionnel. Puis, il se retrouve à chaque fois dans des situations absurdes parce qu'il est dans un milieu qu'il ne connaît pas, avec des approches qu'il ne connaît pas normalement.
Oui, il me faisait penser un petit peu, j'aurais bien vu un Guillaume Gallienne là-dedans. Est-ce que c'est comme ça qu'il s'appelle le comédien français? En tout cas, bref, peu importe. Et alors, la deuxième situation qui est vraiment géniale, c'est que dans la rue, il y a beaucoup plus de non-voyants et il est le seul voyant. Alors évidemment, et il est quand même très très maladroit avec eux.
Hein?
Alors que eux, ils se déplacent tout à fait naturellement, mais alors lui, il a toujours les yeux sur son iPhone. Vous les avez pensés pour la population en général, ces vidéos-là?
Ouais, vraiment l'idée du projet à l'origine, c'était, nous on travaille essentiellement avec des institutions lavalloises et puis on s'est aperçu avec le temps que ben, souvent ils n'étaient pas forcément sensibilisés. Fait qu'on s'est dit, notre milieu il l'est, mais les personnes à l'extérieur de notre milieu ne connaissent pas forcément ça, parfois sont mal à l'aise, savent pas vraiment comment interagir. Fait qu'on s'est dit, ben, ce qui serait intéressant, ça pourrait être de créer un outil justement qui permette de leur donner deux, trois petites réflexions. C'est sûr que c'est un petit outil, c'est très très simple, là, mais déjà des pistes. Et puis c'est parti de là, à l'origine, de se dire ben, comment on pourrait les outiller.
Est-ce qu'elles existent en vidéo description?
Exactement. Donc l'idée, ça a été vraiment d'avoir une approche aussi accessible universelle. Là. Donc,
d'accord.
On les a fait en vidéo description. Elles sont visibles sur notre site rob.org. Il y a les deux, dans le fond, il y a les deux vidéos. Il y a la première sans vidéo description, puis la seconde qui elle est en vidéo description.
D'accord. Et puis on peut aussi voir ça sur YouTube, hein, je pense.
Oui, il y a YouTube et puis il y a Facebook.
D'accord.
C'est vraiment les trois médias.
Ok, alors, et pour vous trouver facilement, qu'est-ce qu'on doit taper,
Ben, c'est sûr que le plus simple, c'est de taper roppl.org
D'accord.
sur Internet, et puis là, on aura accès au Facebook ou directement à une page où vous avez toutes les capsules, les unes après les autres.
Ah oui, puis vraiment, j'incite les gens, allez les voir, allez les entendre, ça vaut le coup.
Puis aller partager, c'est surtout ça.
Oui, vous avez raison, il faut... Oui,
aussi, c'est ça qui est surtout... très important
oui,
pour nous.
Oui, vous avez raison.
Parce que c'est ça qu'on visait.
Exactement. Alors oui, partager, c'est très important. On a une petite minute devant nous. Je sais que vous avez aussi agi par rapport aux commerçants hein, et par rapport au fait de mettre une rampe. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont un peu plus ouverts, les commerçants de Laval, à ça ou pas du tout?
Ben, c'est sûr que cette année, on a visé le centre police, on a été recenser les commerces accessibles, donc ça c'est un projet d'enroule. C'est sûr que à Laval, on est quand même chanceux pour des projets un peu nouveaux, c'est qu'il y a une obligation municipale qui oblige les commerçants à avoir du plein pied. Donc à Laval, sur les structures neuves, on n'a plus à cette contrainte de rampe. Là, pour cette année, c'est sûr qu'on a fait des années où c'était le quartier Sainte-Rose, où c'est beaucoup plus vieux comme quartier à Laval, où là, c'était plus complexe. Mais globalement, généralement, nous, quand on y va, c'est toujours dans une vision positive. On met en avant ce qui est fait. Et souvent, on a quand même des très, très bonnes réactions, et encore plus cette année, où finalement, on a même découvert des commerçants qui sont accessibles universellement. Puis je veux vraiment le nommer, c'est Sky Venture. Eux, ils ont développé ça sans le savoir qu'ils faisaient accessible universellement. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que tout le monde puisse venir accéder à leur commerce. Il y en a plusieurs comme ça qu'on a découvert et qu'on s'est dit, c'est quand même... on part souvent avec une vision négative de se dire, ça marche pas, ça marche pas. Mais là, on est tombé sur vraiment des belles, des beaux commerçants, des belles personnes qui avaient envie que ça avance. Et puis Centropolis aussi, c'est vraiment dans sa vision.
Bon, ben écoutez, je suis contente de finir cette entrevue avec une nouvelle positive. Mathieu Dénéchaud, vous êtes, je vous rappelle hein, que vous êtes de l'organisme ROPPHL. Donc, si vous faites, les gens qui nous écoutent, ROPPHL.org, vous allez trouver les capsules dont nous parlions ce matin. Et puis surtout, partagez-les. Merci beaucoup, Mathieu. Bonne journée.
Merci à vous. Bonne journée à vous.
Au revoir.
Au revoir.
La ville d'Ottawa réduit les frais pour la construction de rampes d'accès temporaires. Justement, nous en parlions. Cette décision du Conseil survient après que le conseiller municipal de Rideau-Vanier, Mathieu Fleury, ait présenté mercredi une motion exigeant l'annulation de ces frais. La motion du conseiller Fleury a été déposée au Conseil quelques jours après que le propriétaire d'une pharmacie située sur la rue Dalhousie se soit publiquement plaint des coûts trop élevés des permis nécessaires à l'installation de rampes d'accès temporaires. Tony Baschelli estimait que les frais de 2 500 $ pour l'installation d'une rampe pour fauteuil roulant à l'extérieur de son commerce étaient excessivement élevés. Et puis, je voudrais finir peut-être sur une note joyeuse, sur une note sympathique et sur une note encourageante. Il s'agit d'un projet qui a été mené par des jeunes en France. Ça s'appelle le projet H, pour changer de regard sur le handicap au collège. Ça nous vient des Hauts-de-France, en tout cas, peu importe la région, mais c'est Julien Guéry qui écrit ça. Écoutez bien, c'est une... Ça dit ceci, leur copine Anna est une élève porteuse d'un handicap moteur, elle est en fauteuil roulant. Cléophée, Louis, Lilou, Fanny, Capucine et Thomas, ce sont les jeunes en question, ont souhaité expliquer aux autres collégiens ce qu'est le handicap et comment aborder une personne en situation de handicap. Alors régulièrement, des séances d'une heure ont été organisées devant chaque classe de 6e, ça c'est secondaire 2 je pense, chacun des 7 amis présentant une partie de leur exposé avec un diaporama projeté. Ils ont abordé des thèmes aussi variés que la définition du handicap, les différents types de handicap, les professionnels ou métiers autour du handicap, les moqueries, comment aborder une personne en situation de handicap et le handisport. Des ateliers handicap sont également prévus pendant la demi-journée de valorisation au collège le 27 juin prochain. Les élèves se mettront dans la peau d'une personne porteuse de handicap pendant quelques minutes. Ces ateliers seront à destination des 6e, mais aussi 5e et 4e, ainsi qu'aux adultes qui souhaitent y participer. 3 types de handicap seront abordés au cours de cette journée, la malvoyance, la surdité partielle et le handicap moteur. Les 7 élèves se sont réunis au moins une fois par semaine depuis le mois de septembre pour parler de leur projet, le faire grandir et le mettre en forme. C'est fantastique ça, hein? Allez, ça va venir au Québec un jour, je le sens. Je vous rappelle, ça s'appelle le projet H. Et c'est ce qui met un terme aux paractualités, non seulement de la semaine, mais de cette saison. Eh oui, depuis le mois de septembre déjà que je vous accompagne entre 11h30 et midi. Place à partir de lundi à l'émission M l'été. Je vous attends aussi nombreux que vous l'êtes à écouter les paractualités. C'était Clotilde Sey qui vous souhaite une très bonne Saint-Jean. Bonne journée, merci à mon équipe.